Alors, vous savez que dans l'église, on a un cours qui s'appelle INSTE. Hein? Donc, cette année, donc, on a à nouveau ouvert un groupe, INSTE. Et tout de suite, donc, il y a un groupe de personnes qui s'inscrivent. C'est payant. Pourquoi ? Parce que comme ça, on apprécie ce qu'on a. Vous savez, on achète un livre. On s'inscrit à une université chrétienne qui est mondiale, donc qui vient de l'Espagne, des États-Unis, mais qui est représentée dans beaucoup de pays. Et alors, voilà, donc on étudie à la maison, 45 minutes à une heure par jour, et après on se retrouve une fois par semaine avec le même groupe. Ce n'est pas un groupe public, ce n'est pas une soirée publique qui a lieu ici dans la salle. C'est donc, voilà, c'est comme une école. Et donc, c'est seulement les personnes qui sont inscrites, qui sont prêtes à faire les examens. Il y a un examen à faire à chaque fois. Il y a un verset à mémoriser par semaine. Hein. Moi, je dirais, ça aurait été bien d'être 10 versets par semaine, mais bon, il y a au moins un verset à mémoriser par semaine. Et donc, il faut toujours écrire le verset, etc. Et une des choses qu'on fait dans la deuxième leçon, on fait une évaluation du fruit de Dieu dans notre vie. Le fruit de l'esprit, on peut dire le fruit de la foi aussi. On fait une évaluation du fruit. Comment est-ce que j'applique la parole de Dieu à ma vie? On va commencer un groupe INSTE à Dieppe. Donc il y a 5 personnes qui se sont inscrites. Donc il y a un groupe qui se prépare, qui va démarrer en février. Et alors, l'évaluation du fruit. Et donc ça m'interpelle chaque fois. Parce que dans l'évaluation du fruit, vous avez de 1 à 5. 1, c'est le moindre, et 5, c'est le plus. Et donc les personnes sont encouragées à répondre honnêtement où tu te situes par rapport au fruit de l'esprit, fruit de la foi, fruit de Dieu dans ta vie. Et donc de 1 à 5, donc ils doivent marquer. Et ensuite, dans la discussion, on va parler entre nous. Là, on est donc 9 élèves. Moi, je suis le mentor, donc celui qui gère un petit peu, qui encadre. Rappelez-vous qu'INSTE, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'enseignant. Il y a un enseignement, mais qui se donne au travers de l'étude, autodidacte, hein, parce que vous avez le livre dans vos mains. Et donc, on a un temps de partage dans lequel, honnêtement, on va dire quelle est la vérité. Hein. Alors, par exemple, qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ok? C'est l'amour. Il y a des dérivés après l'amour. La joie, c'est l'amour qui se réjouit. Hein? La paix, c'est l'amour qui se repose. La patience, c'est l'amour qui croit et qui va espérer. Hein? Et ainsi de suite. Mais par exemple, dans cette évaluation du fruit, de 1 à 5, qu'est-ce que tu dirais? J'aime toujours tous mes frères et sœurs dans ma foi. 1 à 5. J'aime toujours tous mes frères et sœurs dans ma foi. Mais Marc, mais c'est un pléonasme. On est chrétien, on est dans le Seigneur, on lit la Bible tous les jours, mais tu poses la question. Mais c'est 5, mais bien sûr c'est 5. J'aime toujours et en tout temps tous mes frères et sœurs dans ma foi. Si tu regardes autour de toi ce matin, je pourrais dire, je t'aime honnêtement et sincèrement à chaque personne qui est dans cette salle. Sans aucune retenue. Sans aucune pensée en disant, oui, je t'aime, mais la prochaine fois, je te supporte encore. Hein. Oui, je t'aime, mais bon, tu vas recommencer. Hein. Alors, donc, ça va revenir. J'aime toujours tous mes frères et toutes mes sœurs dans la foi. Je vais donner un secret, dire un secret. C'est plus facile d'aimer les personnes de l'extérieur que de l'intérieur. C'est plus facile. Pourquoi? Parce que quand on est frères et sœurs, on sait que personne ne va nous rejeter. Donc, on tarde à permettre que le Saint-Esprit effectue des changements dans nos cœurs. Je me rappelle une fois, j'ai rencontré donc, un couple qui nous a rendu visite aux États-Unis. Et la femme, mais elle était méchante avec son mari. elle lui disait, mais des mots de travers, il envoyait des vannes, des piques, etc. Et j'ai dit, mais arrête quoi, tu vois, bon, tu nous viens nous rendre visite. En plus, on habitait dans un studio à Palaiso, donc un studio dans lequel, voilà, il n'y avait pas vraiment, voilà, c'était un grand studio dans lequel Denise et moi et Brian, et ils sont venus donc, et voilà, on était tous ensemble pendant une bonne semaine. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tant que le Saint-Esprit ne me dit pas que je dois changer vis-à-vis de mon mari, je ne changerai pas. Ah bon? Mais tu as la parole des dieux. Ah oui, mais non, mais oui, mais si tu veux, je peux donner tous les versets hein, par rapport à ça. Soyez aimables, etc. Ne répondez pas, voilà, etc., etc. Et on a parlé. Mais elle a mis au moins 3 ou 4 ans. Ils sont rentrés, elle a mis 3 ou 4 ans pour enfin comprendre que le fruit de l'esprit était pour elle aussi. Et qu'elle devait l'exercer au sein du foyer. Alors bien sûr, quand on est en famille, on sait qu'on va nous supporter, on sait qu'on va nous accepter, on sait qu'on ne va pas nous rejeter, parce qu'on est frère et sœur en Christ. On n'a pas choisi être frère et sœur en Christ. Je n'ai pas choisi qui est mon frère, qui est ma sœur. Ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur, ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur, ceux qui sont enfants des dieux, sont mes frères et sœurs. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit en Corinthiens chapitre 12, que le Saint-Esprit place chaque membre du corps, comme il veut, à sa guise. Comme il veut. Et je te dis sur mon exemple, tu étais le coude de l'église. Tout le monde s'appuie sur toi, c'est formidable. Tu es le coude, tu es le coude, tu es le coude. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient dimanche matin, qui donne son cœur à Jésus, et le Saint-Esprit le place à ta place, le coude. Et toi, tu deviens le phalange inférieur du petit doigt. Parce que là, il voit le potentiel qu'il y a dans ce nouveau-né dans la foi. Il voit ce potentiel dans ce nouveau disciple. Il voit le potentiel et il sait exactement ce que ce nouveau membre va pouvoir apporter au corps. Et le Saint-Esprit place chaque membre où il veut. Et vous savez, nous sommes dans la joie et le privilège de pouvoir aimer tous nos frères et sœurs à tout moment. Dans la foi, c'est dans la foi, bien sûr. C'est dans la foi. 1-5. 1-5, j'ai la joie du Seigneur dans mon cœur, même au sein des problèmes et des difficultés. 1-5. 1, c'est le moindre, 5, c'est le plus. Est-ce que tu as la joie du Seigneur dans ton cœur, même au sein des problèmes et des difficultés? Ah oui, mais tu ne sais pas ce que moi je vis. Tu ne sais pas ce que moi je souffre. Moi, je vais te dire, regarde autour de toi. Sur la face de la terre, et tu trouveras quelqu'un qui souffre un petit peu plus que toi tu souffres. Alors, la joie du Seigneur est ma force. Mes frères, 1 Jacques chapitre 1, tu vois comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Car la joie dans les épreuves va produire en vous une patience. Est-ce que vous avez besoin de sagesse pour savoir comment vivre les épreuves? Alors demandez-la à Dieu, sans douter, car Dieu vous donnera cette sagesse. Pourquoi faire? Pour justement comprendre comment être dans la joie, même au sein des problèmes et des difficultés. De 1 à 5, la paix de Dieu règne dans ma vie et dans mes relations avec les autres. La Bible dit en Romains, chapitre 12, tant que cela dépend de vous, verset 17, soyez en paix avec tout le monde. Ah oui, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu ne sais pas ce qu'il a dit sur moi. Tu ne sais pas. Ah oui, mais moi je sais que la Bible dit, si cela dépend de toi, sois en paix. Oui, mais ils ne vont jamais demander pardon. T'inquiète pas, laisse-les, pardonne-les et sois en paix. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'action du Saint-Esprit dans ta vie. De 1 à 5, je suis patient avec les autres. Est-ce que la patience est une vertu qui est pratiqué? Je suis patient. 1-5. J'espère patiemment dans le Seigneur au lieu d'essayer d'arranger la situation moi-même. Où est-ce que tu en es? 1-5. Mais Seigneur, ça fait 4 mois que j'attends. Mais oui, mais tu sais, des fois ma réponse est oui, des fois ma réponse est non, et des fois ma réponse est attends. Garde le silence. N'envie pas ceux qui réussissent. N'en vit pas le méchant, l'incrédule. Quand il parle de méchant, c'était comme ça dans les psaumes. Mais l'incrédule, l'incroyant. Il y a des personnes qui me disent des fois, oui, mais eux, ils ne sont pas chrétiens. Et regarde comment Dieu les bénit. Regarde comment ceci, regarde comment ça. Ne les envie pas. Car eux, ils n'ont pas la pénitence dans leur cœur. Ils n'ont pas le recours de pouvoir frapper à la porte et dire, Seigneur, viens, restaure ma vie, restaure mon cœur. Et la Bible dit aussi qu'ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Moi, j'espère patiemment dans le Seigneur au lieu d'essayer d'arranger la situation moi-même. Mais Seigneur, tu n'as pas pensé à ça. Voilà, je voulais te le suggérer. Hein. Si on faisait comme ça, on arriverait au but attendu. Mais on espère. Mais on essaie d'arranger les choses. Et quelque part, on manifeste une méfiance. Parce que lui, il nous dit, je prends soin de toi, dépose tes soucis à mes pieds, je prends soin de toi, je suis là pour te conseiller. Le psaume 32, verset 8, nous dit, je t'ai insulé, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai mon regard sur toi, et je serai à tes côtés pour te conseiller. Pourquoi ne pas vivre selon mon conseil? Mon conseil sera toujours là. De 1 à 5, je suis sensible aux besoins des autres qui m'entourent. Je suis sensible aux besoins des autres qui m'entourent. Moi, en tant que pasteur, je passe beaucoup de temps à écouter. Je passe beaucoup de temps à entendre des situations, à entendre des besoins. Et moi, je peux facilement dire, ok, je vais prier pour toi. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse. Et à la prochaine. Non. Deux jours après, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la solution à laquelle tu as pensé, est-ce que la réponse que Dieu t'a dictée, t'a soufflé dans ton cœur, est-ce que la situation s'arrange? Je suis sensible aux besoins des autres. Mais des fois, on peut être indifférent aussi. De 1 à 5, je suis une personne de confiance. Les autres peuvent se fier à mes paroles. Je suis une personne de confiance. Les autres peuvent se fier à mes paroles. De 1 à 5, je suis fidèle à Christ dans mon témoignage, tant par mes paroles que par mon style de vie. Par l'exemple que je donne. Je suis fidèle à Christ dans mon témoignage, donc j'aime bien dire ce que je vis, j'aime dire ce que Jésus est pour moi, mais par mes paroles et par mon style de vie, je vais mettre de l'accent et ça va être une autorité, parce que quand je vais parler, mes actes vont avoir plus de valeur, plus d'impact que mes paroles. T'as pas besoin de parler. Vous savez, quand quelqu'un décède, vous avez assisté à des enterrements? Alors, le prêtre, le pasteur, il parle de la personne. Voilà, il y avait un homme qui était décédé, et donc sa veuve et ses enfants étaient assis au premier rang. Et voilà, le pasteur commence à parler de cet homme. Et tout d'un coup, après 10 minutes, la femme dit à son fils, et regarde dans le cercueil pour voir si c'est ton père, hein, parce que ce n'est pas du tout celui qu'il est en train de décrire. C'est vrai que quand quelqu'un meurt, on pense qu'aux bonnes choses. Alors, est-ce qu'on est des personnes de vérité? 1 à 5, je recherche toujours le bien des autres avant le mien. Philippiens chapitre 2. Cherche à exalter l'autre. Rends-toi inférieur aux autres. Et que leur bien-être soit la joie de ton cœur. De 1 à 5, je cherche toujours le bien des autres avant le mien. De 1 à 5, je contrôle mes pensées, mes besoins grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint en moi. Je contrôle mes pensées et je gère mes besoins grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint en moi. De 1 à 5, ma conduite honore toujours mon Seigneur. Mes paroles. Des fois, quand je suis dans la voiture, il y a quelqu'un qui te coupe. Hier soir, je revenais et j'arrive. Le feu était vert. Il y avait donc un groupe de jeunes, parce qu'ils étaient en train de faire des cris, la police est passée. Ils ont été gentils avec la police, etc. Et tout d'un coup, j'arrive au feu vert et vous avez 6 jeunes qui veulent passer au feu vert. Et la personne qui était à côté de moi, elle n'allait pas s'arrêter, hein. Alors moi, j'ai klaxonné, Et il dit, ouais, mais c'était comme ça. Et il fait des... Voilà, le feu était vert, on n'allait pas très vite. J'ai regardé, l'autre monsieur, il était en train de crier, je ne sais pas quoi, parce que les vitres étaient fermées. Mais c'est sûr et certain, deux fois, deux fois, est-ce qu'on est sûr, ma conduite honore le Seigneur, mes pensées honorent le Seigneur, mes actes honorent le Seigneur. De 1 à 5, je parle facilement à des inconvertis de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. En Isaïe, les 109, c'est le témoignage, c'est extraordinaire. Ceux qui font Isaïe, le monde, donc ils ont été encouragés à donner leur témoignage d'une manière puissante. Mais je parle des inconvertis. Est-ce que c'est facile de parler aux gens inconvertis? Parce que bon, c'est facile de parler à nos frères et sœurs et de leur dire la communion qu'on vit et ce qu'on vit avec le Seigneur. Mais est-ce que c'est facile de parler aux inconvertis? Mon père était quelqu'un, il est décédé depuis bientôt 33 ans, et auprès du Seigneur. Mais c'était quelqu'un qui avait un but dans la vie, et c'était de parler au moins à 20 personnes par jour. Au moins. Alors, si lui, il était... voilà, on va chez le garagiste, et on fait donc la queue pour pouvoir donc être assisté. Hein. Mais s'il était dans cette file d'attente, mais deux secondes après, il était en train de parler avec la personne devant, après, devant ou derrière. Et combien de fois il arrivait à la fin de sa journée, avec une satisfaction, oui, j'ai eu affaire à 20 personnes qui ont fini par donner leur cœur à Jésus-Christ. Si tu le connaissais, il disait, alors, combien d'âmes as-tu gagné cette semaine? Combien de personnes as-tu amené à Christ ce mois-ci? Et donc, parfois, tu baissais la tête en disant, bon, pas beaucoup, oui, j'ai parlé. Surtout ici en France, on peut parler avec des gens, et on n'a pas forcément notre résultat escompté. Hein. Moi, j'ai parlé deux fois pendant des heures avec des personnes, et pensant, voilà, mais vraiment, vraiment, ils vont se mettre à genoux, ils vont accepter Jésus-Christ dans leur cœur, ça va être formidable, et au bout des deux heures, non. Ça ne va pas être vrai. Hein. Dieu ne veut pas m'aimer. On avait une fille qui est venue dans notre église, à qui on avait témoigné, il y a plusieurs années, et cette fille, Madeleine Pierce, hein, elle vient nous rencontrer, elle dit, elle dit, je veux croire en Dieu. Aidez-moi à croire en Dieu. Ma grand-mère était donc professeure d'université, athée. Donc mes parents sont athées. Je n'étais pas élevé dans un contexte de pouvoir croire. Moi, je veux croire en Dieu, aidez-moi à croire en Dieu. Et on a commencé à parler avec elle. Elle a des larmes aux yeux. Et au bout d'une heure, non, c'est trop beau pour être vrai, hein, je ne peux pas le croire. Non, je ne pense pas que Dieu puisse m'aimer comme ça. Non, il doit avoir une cache, il doit se cacher quelque part. Et on a parlé encore une heure. Je dis, est-ce que je peux prier avec toi? Non, mais je ne suis pas croyante, hein. Mais je veux croire en Dieu, aidez-moi à croire. Alors je lui dis, ok, bon, est-ce que tu serais... Bon, là, on s'est tutoyé. Est-ce que tu serais prête à revenir d'ici une semaine pour qu'on puisse parler à nouveau? Et je t'encourage à lire 1 Jean. Il y a 5 chapitres. Lis 1 Jean. Tous les jours. Et si tu as des questions, tu les notes. Et voilà, et donc comme ça, on pourrait en parler des questions qui viendront à ton esprit. Elle est venue une semaine après, elle avait tout un cahier qu'elle avait rempli, des feuilles. Elle l'a venue au moins 10 fois. Aidez-moi à croire en Dieu, aidez-moi à croire. On a passé encore une heure, deux heures. Est-ce que tu ressens le besoin d'aider dans ta vie? Non, pas du tout. Et je ne viendrai pas à vos cultes parce que je ne fais pas partie de vous. D'accord, pas de problème. Toutes les semaines, 3 mois sont passés. Et 3 mois dans lesquels elle versait des larmes. Et 3 fois dans lesquels donc on pensait, ah mais maintenant, aujourd'hui, c'est sûr et certain, elle va accepter Christ en son cœur, elle va le recevoir dans sa vie. Et là, elle va vivre l'expérience de connaître Dieu par elle-même. Et un jour, un dimanche matin, parce qu'elle travaillait avec cette personne dans ce lieu de travail, donc ils parlaient, discutaient, etc. Elle est occulte. Voilà, elle est occulte. Elle dit qu'elle ne faisait pas partie de nous, pourquoi elle est là? Et à la fin du culte, elle me dit, est-ce que je pourrais me faire baptiser? Bon, faire baptiser. Mais oui, parce qu'hier soir, j'ai lu en Luc chapitre 9, verset 23, que je vais être disciple de Jésus, je dois renoncer à moi-même, prendre ma croix et le suivre. Et bien sûr, Jean-Pierre lui avait parlé du baptême. Il lui avait dit, un jour que tu te convertiras, tu seras baptisé, etc. Et alors là, je vais vous dire, hein, elle a donné son cœur à Jésus. Là, elle était mordue. Hein, là elle savait en qui elle croyait. Je ne sais pas combien de fois elle avait lu l'évangile. Elle a fini par partir en Roumanie en tant que missionnaire. Mais alors, jamais je vais oublier cette expérience. Parle-moi de Dieu. Je veux croire en Dieu. Aide-moi à croire. Des fois, on parle à des inconvertis et on se lasse trop vite. Parce que peut-être, ils ne veulent pas accepter ce que nous, on a à leur dire. Mais est-ce qu'on est prêt aussi à écouter leurs questions? Qu'est-ce qu'elle nous dit en Pierre chapitre 3, verset 17? Il dit qu'on doit toujours être prêt à répondre avec respect et douceur devant quiconque nous demande, nous pose des questions concernant la foi et l'espérance en notre cœur. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui disent, moi, je ne témoigne jamais. J'attends que les gens viennent vers moi. C'est biblique, hein. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas s'imposer. On ne veut pas s'imposer. Mais les inconvertis que tu connais, qui ne connaissent pas Dieu, ils vont vivre une éternité. Une éternité. Et alors, cette éternité, c'est la compassion de Dieu qui nous pousse. C'est l'amour de Dieu qui nous presse à penser à leur éternité. La Bible dit en Ecclésiaste, il a mis dans le cœur de chacun la pensée de l'éternité. Même l'athée, l'humaniste, même l'agnostique, ils savent qu'il y a une éternité devant eux. Et ce n'est pas que nous, on est les meilleurs parce que nous, on a la vérité. Pas du tout. C'est la manière de le présenter avec respect et douceur. Alors, des fois, c'est difficile parce qu'on ne voit pas les fruits. Combien de fois on ne voit pas les fruits? Mais tout d'un coup, au bout de plusieurs années de prière, j'ai reçu un coup de fil récemment qui m'a dit, « Tu sais, ma sœur, elle vient de donner son cœur à Jésus, elle est en train de chercher une église. » Après beaucoup, beaucoup d'années d'attente. Beaucoup d'années d'attente. Ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Alors de 1 à 5, j'ai compassion de ceux qui se perdent autour de moi. Et je suis conscient que chaque personne sans Christ autour de moi va vers la perdition. Va vers le chemin large qui mène à la destruction. Je suis bien conscient. Est-ce que je verse des larmes pour ces personnes qui se perdent autour de moi? Est-ce que j'ai une compassion que Dieu met dans mon cœur? C'est encore le fruit de l'esprit. C'est encore le fruit de la foi. C'est le fruit de savoir que Dieu est dans ma vie et qu'il n'y a rien qui va me faire des choix de ma fermeté, mais je ne veux pas aller au ciel seul. Il y a un chant, vieux chant qui dit, y aura-t-il dans mes mains, lorsque je serai devant le Seigneur, des couronnes. La Bible dit qu'il y a une couronne qui est réservée à ceux qui gagnent des âmes. Y aura-t-il des couronnes dans mes mains? Y aura-t-il des personnes qui vont me suivre? Que si je fais demi-tour, je suis au ciel, qu'il y ait une ligne de personnes qui sont là, qui disent, moi aussi j'attends de rentrer, grâce au témoignage, grâce donc à ta fidélité. Il y a un autre chant qui dit, merci d'avoir donné, merci d'avoir parlé, merci d'avoir osé, merci d'avoir, d'être revenu, frapper à la porte encore et encore et encore. Je me rappelle quand j'avais à peu près 10 ans, en 66, face à l'église, il y avait donc une famille, 8 enfants. Et tous les dimanches, j'allais. Est-ce que vous permettez que vos enfants viennent à l'école des dimanches? Non, moi je suis ceci, je suis dans cette religion, dans l'autre, etc. Et un jour, je suis allé, et j'ai frappé à la porte, encore une fois. Et la fille aînée, Irma, elle sort, elle dit, mon père me dit de te dire qu'il n'est pas là. il y avait un rideau et je voyais les pieds du père qui était derrière le rideau. Alors je suis allé tirer le rideau, il était là. Alors Maximino s'est converti, Carlotta sa femme, c'est intéressant, Maximino et Carlotta, ils se sont convertis, 4 de leurs enfants sont pasteurs aujourd'hui. Mais si, et je ne me mets pas en avant, mais si ce jour-là, je me dis, bon, ce dernier dimanche que je viens, c'est terminé. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Est-ce qu'on a cette compassion qui nous pousse, qui nous fait faire peut-être prendre des décisions, qui nous fait changer nos plans, etc. Parce qu'il y a une compassion pour ceux qui se perdent autour de nous. Alors une fois qu'ils sont gagnés, alléluia, ils font partie de l'Église. Et là, de 1 à 5, je sers joyeusement mes frères dans l'Église. Je suis à leur service. Je mets au service des autres les dons que j'ai reçus de la part du Seigneur. J'aime servir. Mon cœur est un cœur de serviteur. Je sers joyeusement mes frères dans l'Église. Je pense au groupe de louanges. Tous les dimanches matin, je vois et je constate, c'est eux qui mettent les chaises. Moi, j'aimerais encourager que ceux qui font le ménage mettent les chaises. Parce que bon, des fois, eux, ils arrivent. Voilà, c'est bien, mais tout simplement, soyons conscients, on sert joyeusement tous nos frères dans l'Église. Toute personne dans l'Église a besoin de savoir qu'on est là pour leur rendre service. Et si chaque personne est à sa place, chaque personne joue son rôle, alors personne ne sera trop chargé. Moi, je me rappelle quand on faisait les grandes listes, vous savez, les services, il y avait des personnes qui s'inscrivaient à 8 choses différentes. J'ai dit, mais ça ne va pas marcher. Ils ne pourront pas être engagés dans 8 services dans l'Église. C'est impossible. Ils vont finir par servir dans la mer. Ils vont finir par se dire, bon, je le fais parce que les autres ne le font pas, etc. Attention, je sers joyeusement mes frères dans l'Église. Si je sers joyeusement mes frères dans l'Église, ça veut dire que je suis prêt à accueillir ceux qui vont arriver. Et je me rappelle au Mexique, il y avait un frère. Chaque fois qu'il venait, c'était lui donc de faire le ménage, etc. Après que tout le monde soit parti, après que l'équipe soit partie, il passait du temps à genoux, à chaque banc. Parce que c'était les bancs, hein. Vous savez, mon père, il faisait construire des bancs même avant qu'on ait le bâtiment. Moi-même, je suis témoin de ça. Je me rappelle la première fois quand à Mexico, on a donc la première des 15 églises dans la ville de Mexico, une ville de 30 millions d'habitants aujourd'hui. On n'avait pas de lieu où avoir le culte. Mais mon père avait déjà fait construire 500 bancs, 12 places par banc, vernis à la perfection, prêts à être utilisés. Quand Dieu pourvoyait la salle, on avait déjà les bancs. On pouvait commencer le culte tout de suite, les réunions tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ceux qui étaient prêts à accueillir ceux qui allaient arriver. Si on sait joyeusement nos frères dans l'Église, on sera prêt aussi à accueillir ceux qui vont arriver. Accueillez-vous comme Christ vous a accueilli, la Bible dit. Donc ce frère passait du temps et il priait à chaque banc. Seigneur, bénis les personnes qui vont venir. Seigneur, transforme les familles qui vont venir. Et il passait 1 heure, 2 heures à prier. Pourquoi ? Parce que, en plus de ça, quand il y avait des appels, parce qu'il y avait des appels à toutes les réunions, et les gens passaient devant, et il y avait les équipiers qui les accueillaient, etc. Alors lui, il était là avec un grand sourire, parce qu'il savait qu'il était en train d'exaucer à ses prières. Et lui n'avait pas la parole facile. Donc ce n'était pas facile pour lui de s'exprimer. C'est quelqu'un de très très humble, de très très simple. Mais alors il avait une joie de savoir qu'il avait prié pour les personnes qui allaient se convertir. On vous attendait. Hein? De 1 à 7, ma vie se caractérise par des bonnes œuvres qui viennent de mon amour pour Dieu. Des bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, avant que le monde ne soit pas fondé. Tu avais déjà établi des œuvres qui nous avaient réservées pour nous. Mais tu sais, je vais te dire, je ne peux pas moi travailler dans ton champ, je ne peux pas accomplir les œuvres que Dieu t'a données à faire. Moi j'ai les œuvres que je dois faire, toi tu as les œuvres que tu dois faire, alors on ne peut pas, on peut se tendre la main, on peut s'épauler, on peut s'encourager comme Pierre, quand la pêche était tellement forte, tellement nombreuse, il a fallu inviter les autres personnes à venir l'aider. Mais alors, moi je serais réveillé jusqu'à 2h, 3h du matin, si tu me dis, Marc, j'ai 20 personnes qui sont converties, il faut les former, etc. J'aimerais bien donc être à tes côtés, t'encourager, etc. Mais les œuvres que tu as préparées pour nous, c'est des œuvres précises. Et jamais je vais oublier ce témoignage, mais il y a un homme qui était en arrêt de bus. Je suis à 3000 km, 3000 km de l'Alaska. Et moi, je n'aimais pas aller à cet arrêt de bus. L'école biblique allait faire un pique-nique ce jour-là, donc on avait droit à un pique-nique quand même. Non, toi, tu vas aller rendre visite à un tel, et tu vas pas au pique-nique. Et je suis à l'arrêt de bus. Et je dis à cet homme, oui, voilà, donc j'ai un grand-père, parce qu'il a parlé de son âge, il avait 78 ans. Et moi, j'ai un grand-père qui a 87 ans et qui habite en Alaska. Il me dit, en Alaska, où? Je lui dis, où? Il m'a dit, et comment il s'appelle? Je lui dis, il s'appelle Ludwig Host. Ah, mais j'ai pas connu le vieil homme, hein? Mais ton oncle Lincoln et ta tante Lois étaient mes employés il y a 40 ans. Et j'ai commencé à parler de Dieu avec lui. Il a commencé à pleurer. Il a dit, tu es la deuxième personne qui prend le temps de me dire que Dieu m'aime. Et je résiste à cet amour. J'ai dit, qui était le premier? Ton oncle et ta tante, il y a 40 ans. C'est pas un hasard. C'est pas une coïncidence. C'était un rendez-vous que Dieu avait établi. Est-ce que tous les jours, Dieu a des rendez-vous pour nous? Parce que les œuvres bonnes qu'on fait pour glorifier le Seigneur, pas pour gagner des points avec Dieu. On est sauvé par la grâce, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier et dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai l'enterré direct au ciel. Vous savez, moi j'assiste parfois à des enterrements, des personnes, dans lesquelles il y a des messes, etc. Et la manière dont ils parlent de ces personnes qui sont décédées, ah mais du moment qu'ils ont été baptisés, petits enfants, ils sont avec le Seigneur. Moi j'ai rencontré une femme qui avait été professeur universitaire, qui avait 96 ans, qui était une femme méchante, qui était une femme qui avait toute sa tête très lucide. Et alors, sa fille m'a demandé d'aller la voir, je suis allé la voir. Et j'ai parlé avec elle. Et cette femme, elle a donné son cœur à Jésus-Christ à 96 ans. Une semaine après, elle est décédée. À l'enterrement, il y avait 4 personnes, le prêtre, moi, sa sœur et un cousin. C'est dur d'arriver à 96 ans et qu'il y ait 4 personnes avant l'enterrement, c'est difficile. Et alors le prêtre, il a dit, depuis le jour qu'elle a été baptisée, elle est devenue enfant des dieux, elle avait donc la porte ouverte au paradis. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est bien que les parents ont eu la volonté de vouloir la faire baptiser. Mais elle-même, elle se disait athée, elle-même, elle était contre Dieu, elle était vraiment lucide dans ses paroles, dans ses propos. Mais moi, je savais que parce qu'elle avait donné son cœur à Jésus, je savais que ce que le prêtre disait, c'était moitié vrai, mais c'était parce que, étant lucide, étant adulte, elle avait accepté Christ dans son cœur. Et même si vous devez travailler auprès des gens qui sont en fin de vie, et qui se donnent à Christ, alors, alléluia, c'est gagné, amen. Ta justesse, c'est gagné. Les œuvres bonnes qui viennent de mon amour pour Dieu. Les œuvres bonnes parce que je veux comprendre pourquoi Dieu m'a appelé. Et de 1 à 5, je loue Dieu de tout mon être. Mon être, mon âme, ma volonté, mes émotions, mon intellect, ma mentalité transformée. Évaluation du fruit. Alors je voulais simplement vous lancer ce défi. Vous faites lister, vous ne faites pas lister, c'est pas la question. L'évaluation de notre fruit. Et regardez les fruits de l'esprit. Hein? Regardez les fruits de la foi, la vertu, la science, la tempérance, encore la patience, la piété, l'amour fraternel. Regardez donc les fruits dans la parole de Dieu. Essayez de comprendre comment vous pouvez être actif à vivre pleinement cette maturité dans votre vie et dans votre cœur. Vous savez, ce n'est pas l'âge qu'on a dans le Seigneur qui compte. C'est l'ouverture de notre cœur envers l'action du Saint-Esprit en nous. C'est là où notre mari, notre femme, nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, c'est là où les voisins, ils vont se dire, mais là il y a, j'ai affaire à des personnes qui sont vraies, des personnes qui sont sincères, des personnes qui croient à ce qu'ils disent. Je le vois partir le dimanche matin avec une Bible dans la main, une guitare, où on dit, je vais les suivre un jour. Vous savez, on a un témoignage ici dans ce quartier, quand on a fermé pendant 5 mois, les voisins ont dit, mais qu'est-ce que ça nous manque de voir les gens sortir de la porte chaque dimanche avec le grand sourire, en parlant. Ils restent à papoter pendant quelques temps après. Après, ils s'en vont ensemble et tout. Mais qu'est-ce que ça nous a manqué? Et pourtant, c'est des voisins qui parfois se plaignent par rapport au bruit. Parfois, voilà. Mais ils témoignaient du fait qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Alors nous sommes ce peuple qui bouleverse la ville. Faisons une évaluation du fruit de temps à autre. Permettons que le Saint-Esprit fasse des bilans dans nos cœurs. Demande à ta femme, alors où est-ce que j'en suis par rapport au fruit? Vas-y, dis-moi. Tu es prête à ce que je te bénisse? Tu es prête à ce que je t'édifie? Mais pour t'édifier, peut-être que je dois passer par un moment où tu dis, tu sais, dans ces domaines-là, ça ne va pas trop fort. Mais bon, ne te fâche pas, hein. Tu m'as demandé de te dire quelle est l'évaluation de ton fruit. Tu m'as demandé de t'aider. Et tu sais, le couple, il prie, Seigneur, je te prie que tu changes mon mari. Tu vois comme il est, Seigneur. Tac, 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 tac. Et le mari dit, merci, Seigneur, ma femme prie pour moi. Je ne vais pas me fâcher, Seigneur. Elle a raison. Parfois, je ne suis pas facile. Ce n'est pas grave. Seigneur, tu m'aimes. Etc. Et la femme se rend compte qu'elle devient un élément d'édification dans la vie de son mari. Le mari se rend compte qu'il devient un élément d'édification dans la vie de sa femme. Et tu utilises ta femme ou ton mari pour te corriger, et tu le fais avec un sourire. Il le fait avec un sourire, et toi tu le reçois avec un sourire. Parce que de toute façon, ceux qui t'aiment le plus veulent le bien de ta vie, veulent ton bien, et veulent Dieu va se servir de chacun. Alors, que le Saint-Esprit puisse nous attirer davantage. À Jacques chapitre 1, et je vais terminer. J'ai déjà lu la première partie. Et Jacques chapitre 1 nous dit que, au verset 19, « Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Je sais pourquoi. Rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevons avec douceur la parole qui a été plantée en nous, et qui peut sauver nos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Seigneur, ce matin, nous te remercions. Parce que oui, on trouve des listes dans la Bible. Le fruit de l'esprit, le fruit de la foi, les béatitudes, c'est des listes. C'est des exigences, c'est ta part. C'est des défis. Mais Seigneur, il est bien de temps en temps de nous placer devant le miroir de ta parole et de dire, Seigneur, enlève les imperfections. Je veux que le reflet que je regarde soit vraiment ta présence. Personne n'est parfait, personne n'est plus que l'autre. Mais tout simplement, Seigneur, nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, transformés par la puissance de Dieu, et qui nous pousse toujours à aller plus haut avec lui. Et comment le jeune homme a-t-il pu son sentier en se divisant d'après ta parole? Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, tu nous invites, Seigneur, à progresser, tu nous invites à avancer, tu nous invites, Seigneur, à regarder à ce qu'on était il y a un mois, ce qu'on était il y a un an, et qu'on puisse dire gloire, oh gloire à notre Seigneur. Il est à l'œuvre dans mon cœur, il est à l'œuvre dans ma vie. et je peux témoigner librement parce que mon témoignage, ma vie appuie mes paroles. Parce que l'autorité de mon témoignage vient du fait que je suis un de ceux qui pratiquent ta parole. Et nous, Seigneur, chaque fois qu'on se rassemble, qu'on sache tous qu'on est sous la même table d'opération du Saint-Esprit, on est toujours avec le bistouri de la parole qui vient pour pénétrer et pour guérir et pour ouvrir les plaies afin de guérir. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre qu'on est tous, Seigneur mon Dieu, à la merci de ton amour, à la merci de ta grâce. Transforme nos vies, transforme nos cœurs. Et que le témoignage, Seigneur, soit un témoignage qui dit « Jésus est vivant aujourd'hui. Il est à l'œuvre aujourd'hui. Je l'expérimente. Je l'ai vu. Je le sens dans ma vie et dans mon cœur. » C'est ainsi, Seigneur, que ton nom sera glorifié et exalté. Au nom de Jésus. Amen. Un instant, je vous demande de fermer vos yeux un instant. Baissez vos fronts. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, « Marc, tu sais, tu parles de une vie dans laquelle Dieu se manifeste, dans laquelle Dieu change notre manière d'être, notre caractère. Même il va chaviner un petit peu notre personnalité des fois. Parce qu'il veut nous rendre semblables à son fils. Mais ce matin, moi je ne peux pas dire que je suis déjà en contact avec ce Dieu vivant. J'ai besoin d'un sauveur dans ma vie. J'ai besoin de Christ dans mon cœur. J'ai besoin de savoir que je suis pardonné et que ma nature de péché est en train d'être régénérée par la puissance de Dieu. Et si je suis venu ici ce matin ou si je suis venu dans ce lieu, je reconnais que Dieu pense à moi, qu'il m'appelle. Qu'il aimait les temps que je sois proche de lui. Je vois l'échange, j'entends l'échange, je vois la louange, je vois l'expression, la paix reflétée sur le visage, la tranquillité. Mais moi, dans mon cœur, je n'ai pas encore franchi le pas. Combien j'aimerais dire que je suis enfant des dieux. Combien j'aimerais dire que je ne suis plus esclave de la peur, que je suis enfant des dieux. Combien j'aimerais changer, j'aimerais être différent. Et qu'un jour le Seigneur puisse m'aider à faire une évaluation du fruit, une fois que j'ai progressé dans ma foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui voulait prier pour moi? Je veux donner ma vie à Dieu. J'ai besoin d'un sauveur. Et je reconnais que Jésus est le seul qui peut me sauver. Quelqu'un peut fermer la porte, s'il vous plaît? La porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, prie pour moi. Lève la main. Lève la main. Dieu nous appelle. Il nous fait comprendre qu'il veut beaucoup, beaucoup plus de nous. Lève la main. Simplement dit, prie pour moi. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de Christ dans ma vie. J'ai besoin de pouvoir recevoir la parole de Dieu avec douceur, sans murmurer, sans la contester. Je ne connais pas l'auteur. Je ne connais pas Dieu encore. J'ai tant besoin de Dieu dans ma vie, dans mon cœur. Lève la main, nous allons prier. Et c'est le cas. S'il y a quelqu'un qui dirait, prie pour moi. J'ai besoin. Je veux. Seigneur, ta parole n'est pas en vain. Ta parole ne peut pas réussir sans avoir produit un effet chez ceux qui l'entendent. Nous croyons, Seigneur, que l'œuvre que tu vas accomplir dans les semaines à venir, dans le cœur de chaque personne qui a entendu ta parole ce matin, c'est une œuvre qui glorifie ton nom. Bénis chaque personne ici. Et s'il y a des personnes, Seigneur, qui ont des questions, des personnes qui aimeraient aller plus loin dans la discussion, qui puissent, avec les frères et sœurs autour, puisqu'on s'accueille les uns les autres, on est là les uns pour les autres, Seigneur, qui puissent avoir des conversations, qui pourraient les emmener, Seigneur, à prendre une décision. qui va avoir une incidence sur leur éternité, dans l'éternité avec toi. Au nom de Jésus. Amen.